Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Dieu peut-il guérir ? C'est pour rappel le thème des émissions de ces lundis de carême, série spéciale que nous vous proposons cette année. Une question importante s'il en est, tant le désir de suivre un Dieu vivant est au cœur de toute démarche spirituelle. Un Dieu vivant et agissant, pour de vrai, comme disent les enfants. Une série qui paraîtra audacieuse à certains, mais le propre de l'Esprit-Saint n'est-il pas de chambouler nos vies comme le fait l'arrivée d'un enfant, selon les mots du pape François ? Dieu peut-il guérir ? C'est donc le thème de cette émission. Et comme je l'ai dit dans cette introduction, avec Daniel Desbois, psychologue et cofondateur des Agapés, ces retraites de guérison intérieure du Puy-en-Velay. Bonjour Daniel.
Bonjour Emmanuel.
Deuxième donc émission de cette grande série de carême. Alors pour ceux qui n'auraient pas écouté la première émission, on va peut-être avoir deux trois questions d'introduction. Les Agapés, même question que la semaine dernière, si vous deviez expliquer ce que c'est pour rassurer nos auditeurs. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'une agapée ?
Alors l'agapée, c'est mettre sous le regard du Christ notre histoire, notre passé, nos difficultés, notre innocence blessée, que le Seigneur vienne visiter chacune des blessures pour me restaurer dans ma dignité d'être, pour me remettre debout. Et c'est vrai que les agapés sont aussi là pour aider par les moyens de l'Église, certaines prières d'Église qui nous permettent justement d'avoir à nous défaire de ce qui ne nous appartient pas et que seul le bon Dieu peut faire par l'intercession du prêtre.
Alors, à vous entendre, en tout cas, quand on connaît un tout petit peu le sujet et puis après avoir écouté la première émission, on peut avoir l'impression que, quelque part, tout chrétien, à un moment, dans sa vie spirituelle, doit faire un travail de guérison intérieure, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, en fait, laisser Dieu pas seulement, on va dire, nous bénir de l'extérieur, mais de l'intérieur, comme on allumerait une lumière à l'intérieur d'une grotte. Pourtant, ces agapés, en fait, sont pas très connus, enfin, il y a peu... Rares sont les chrétiens, non, encore, qui vont dans ces lieux de retraite de guérison.
Oui, c'est vrai que c'est par innocence, on manque d'information. Et l'Église, justement, nous propose, en plus, si on reprend tout le parcours de Jésus, il ne fait que ça. Il ne fait que cela, guérir, libérer, délivrer, redresser les personnes et leur dire « convertissez-vous, prends ton brancard et va ». Donc, pour nous, il s'adresse aussi de manière identique. Et je vois comment aujourd'hui la psychologie, ils l'ont bien compris, hein, tout ce qui est les psychologues qui sont dans une démarche de connaissance de soi, ils savent très bien que pour être heureux, il faut avoir une connaissance beaucoup plus importante de soi-même. Nous, en tant que chrétiens, c'est aussi fondamental de nous connaître, mais le but, ce n'est pas de nous connaître pour connaître notre nombril, pas du tout. Nous connaître, la connaissance de soi, c'est en vue de connaître notre péché. De connaître les lieux de nos blessures.
Et savoir... notre péché, pour ceux qui ne seraient pas familiers par hasard de ce mot-là, ça veut dire quoi ?
Ah ben voilà, quand je suis blessé, on vient me piquer avec une pointe, je vais réagir obligatoirement. Soit ça va me faire mal, soit je suis tétanisé, je ne bouge pas, soit je réagis, je vais contre l'autre, soit je me sauve. Il y a obligatoirement, dès qu'il y a blessure, il va y avoir une rupture de relation avec l'autre. Donc tout ce qui est rupture de relation porte en soi la rupture avec l'amour. Donc dès l'instant où je suis blessé, il va y avoir une inscription de l'amour, une inscription du doute par rapport à l'amour dans mon cœur et qui fait que automatiquement je vais avoir une déformation du message de l'amour. Mais derrière, que l'on soit croyant ou pas croyant, dès l'instant où je me replie sur moi pour me protéger, je vais me mettre à distance du Seigneur.
Alors juste pour bien comprendre, quelle est la différence entre une démarche, on va dire, thérapeutique dans un cadre d'une thérapie psychologique et une retraite de guérison intérieure ? C'est pas tout à fait le même registre ou c'est justement un temps, on va dire, court d'intense retraite psychologique mais dans un cadre chrétien ?
Non. Alors quand on fait une démarche même thérapeutique, psychologique, là c'est pour être de plus en plus autonome, pour se débrouiller tout seul. La visée, c'est d'être mieux. On recherche un bien-être. Notre société, par tous les moyens qu'elle propose, en dehors même d'une thérapie, elle propose un mieux-être, elle propose un bien-être. Et nous, en tant que chrétiens, c'est pas le bien-être seulement que l'on recherche. Ce que l'on recherche, c'est l'intimité avec le Christ, et qui passe par les mêmes tourments que quelqu'un qui n'est pas du tout croyant, mais on en fait quelque chose d'autre. C'est-à-dire, on va être en collaboration avec l'action de l'Esprit Saint. Pour un non-croyant, lui, il se contente d'être heureux, de rechercher les moyens qui va le mettre dans la joie. Nous, on n'est pas contre la joie, mais on n'est pas en faveur d'une joie superficielle, mais d'une joie profonde que seul Dieu peut nous donner.
Alors, vous teniez donc à commencer cette deuxième émission donc sur le thème de la résistance au changement pour cette série donc sur la guérison intérieure commencer tout simplement par ce qui a pu arriver peut-être à un certain nombre d'auditeurs quand on vit des temps forts, des retraites ou comme on dit des grâces hein, qui sont pas forcément données d'ailleurs à l'occasion de temps forts. Parfois ça peut être tout à fait inopiné ou au cours d'une célébration, d'un temps de prière, même parfois en contemplant un beau paysage, bref. Quand on reçoit une grâce, vous dites souvent, à vous lire, en préparant cette émission, on n'en fait pas forcément un bon usage, on ne sait pas comment l'utiliser, la faire durer, et puis derrière ça fait pchit, comme disent certains. Alors est-ce quelque part d'abord le grand constat?
Oui, c'est un constat qui m'a toujours étonné parce que, étant donné que depuis de longues années, je suis engagé sur la démarche de libération au travers des retraites intérieures, mais je me dis, mais comment se fait-il que des personnes qui font des retraites qui sont absolument magnifiques, que ce soit en foyer de charité ou ailleurs, enfin, il y a de très très belles retraites spirituelles, les gens viennent, ils sont remplis de Dieu, et je me suis toujours posé la question, comment se fait-il qu'après il y ait une évaporation de la grâce qui a été donnée, comme s'il y avait tout doucement une reprise des vieux réflexes, des vieux conditionnements qui nous remettent dans un quotidien. Et je me dis, mais c'est drôle. Alors quand on va faire une retraite, on se retrouve dans une parenthèse pendant 3 jours, pendant 1 semaine. Et après cette parenthèse, remplie, chargée d'Esprit Saint, de joie, de bonheur, on retrouve le quotidien. Je me dis, est-ce que c'est une parenthèse? Puis après, tu retrouves le quotidien et tu retrouves tes vieux réflexes. Et oui, effectivement, la grâce qui a été donnée, c'est en vue justement de l'amener dans le quotidien pour transformer le quotidien. Et c'est ici qu'il y a une difficulté. Il faut voir que la bénédiction qui a été donnée, c'est le début de la transformation. Mais la transformation appartient à l'homme. La bénédiction appartient à Dieu, mais la transformation appartient à l'homme. Et la parole de Dieu nous dit bien dans Luc, celui qui met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Donc ce qui veut dire que à un moment, il faut fermer la porte derrière soi. Une fois que la bénédiction est donnée, il va falloir apprendre à fermer la porte, parce qu'on ne sait pas toujours faire. C'est là qu'il y a l'accompagnateur spirituel qui va être là pour m'encourager à maintenir cette porte fermée, parce qu'il y en a un qui va s'occuper de moi, c'est évident. Là, il va me charger, c'est sûr.
On va découvrir, hein, c'est en tout cas les conseils que vous donnez pour essayer de ne pas regarder en arrière et pas se laisser prendre à cette porte qui peut être même une trappe. Votre conviction aussi, c'est que souvent cette difficulté donc à transformer cette bénédiction en transformation, bref, est-ce que cette bénédiction infuse dans toute notre vie, peut-être la pauvreté de notre foi, de nos habitudes de prière, de notre désir de Dieu. Est-ce que vous pouvez expliquer ça?
Oui, parce que en fait, je vois que quand j'accompagne les personnes qui ont fait une retraite, qui sont surchargées de bonheur, et puis quand elles commencent à se défaire intérieurement, je leur pose souvent, très souvent, je pose la question aux chrétiens, ben, j'ai pas toujours des chrétiens en face de moi, mais je leur pose la question, je leur dis, qu'en est-il de votre prière au quotidien?
Vous en parliez déjà la fois dernière. Hein,
J'en parlais la fois dernière et c'est important d'en reparler, ne serait-ce que pour les personnes qui n'ont pas entendu. On ne peut pas avoir une prière pauvre de prière, c'est une prière riche. Toujours chercher la richesse de la prière, ça veut dire qu'il faut y croire. Ça veut dire déjà que dans la foi, je crois que ma prière est entendue. Alors, je vais dire, mais je prie. Combien de temps tu pries? Donc, justement, on l'évoquait l'autre jour. Si je prie 5 minutes ou 10 minutes dans la journée, mais c'est trop peu. Il faut vraiment que je m'engage. Vous savez, il y a tout un temps de préparation intérieurement pour pouvoir être de plus en plus en contact avec le Seigneur. Déjà, je vois les personnes, je leur dis, comment est-ce que vous priez? Eh ben, elles me disent, il y en a qui me disent, je m'allonge. Mais je dis, mais on ne peut pas prier dans un lit. Dans un lit, on dort. On ne peut pas prier dans un lit allongé comme ça. On s'assoit, même si c'est confortable, il faut s'asseoir. Il y en a qui me disent, mais je suis dans un fauteuil. Et puis, le risque, c'est de s'avachir. Et la prière, il faut tenir debout. Parce que le Seigneur, lui, est debout. La grâce, elle est partout, bien sûr, mais il faut que je sois tendu vers. Et pour être tendu vers, il faut qu'intérieurement, je sois debout.
C'est-à-dire que Dieu ne peut pas nous transformer si on n'a pas du temps à lui consacrer pour ça. C'est ça qu'il faut entendre
Alors, la transformation, elle va venir à la base, la prière, elle va venir sur le poids de ma sincérité. Si je suis une personne priante, je vais surtout demander au Seigneur, rends-moi sincère dans ma prière. Parce que c'est lui qui va me rendre sincère. Moi, je fais ce que je peux. Mais le Seigneur, par l'action de l'Esprit-Saint, il va me mettre en disposition d'être de plus en plus fervent, de plus en plus courageux, persévérant. C'est l'Esprit-Saint qui va faire de moi un priant, c'est pas moi. Seulement, il faut que je me mette à genoux. Quand la personne a la possibilité, bien sûr, de se mettre à genoux et qu'elle va prier, il est évident que la prière n'est pas la même quand je suis à genoux et puis quand je suis couché. C'est pas possible. Si je fais une prière à un autre Père et que je lève les mains, mais vraiment, je les lève vers le bon Dieu dans le secret de ma petite chapelle à la maison, je lève les mains, mais c'est évident que mon corps prie. Alors, est-ce que vous rajoutez dans votre prière la présence du corps qui est temple? Est-ce que vous le mobilisez pour prier? Donc, je leur demande tout cela. Et évidemment, et je vois les retours, les personnes me disent, c'est vrai qu'il y a un changement. C'est pas pareil quand je prie avec mon corps et à distance et quand je prie vraiment dans une ferveur nourrissante.
Alors, Daniel Desbois, puisque vous prenez le temps de réinsister comme la fois dernière donc sur l'importance de cette vie de prière, je sais qu'il y a beaucoup d'auditrices qui sont des mères de famille. Quand on est mère de famille et qu'on a des enfants en bas âge, trouver 10 minutes dans la journée, c'est déjà un sacré défi. Est-ce que ce qui compte, c'est pas quand même fondamentalement l'intention du cœur? Parce qu'à être trop exigeant, c'est-à-dire à faire un retour sur soi, à prendre le temps de regarder sa vie, avoir un accompagnement spirituel, prendre un quart d'heure, une demi-heure tous les jours, vous risquez d'en perdre en chemin. Là,
oui, c'est sûr, on risque d'en perdre en chemin, mais il ne faut pas en perdre en chemin. C'est vrai que la prière, c'est aussi ce qui nous, on est invité à vivre la prière continue. C'est-à-dire, en même temps que je suis au travail, je vais prendre 5 secondes. Mais si je prends 5 secondes et je dis « Seigneur, sois béni pour ta présence, sois béni pour ce temps que je vis avec toi là », ça y est. Je le répète, mais ça va faire une accumulation de minutes qui fait que à la fin de la journée, j'en ai beaucoup. Mais encore faut-il y penser, vous voyez. Mais en même temps, je vois au travers de la lecture des saints, il nous invite quand même à prendre le temps. Le Seigneur, il nous demande de prendre le temps pour être avec lui. Donc, au moins le savoir, si j'ai de la difficulté parce que j'ai pas le temps, parce que je suis pris, c'est pas grave en soi. Je le fais par petites tranches de 5 secondes. Mais si je peux, vous savez, le soir, des fois on est fatigué, on a envie de se coucher, essayez de prendre un quart d'heure, 20 minutes, avant de vous coucher. Vous allez voir si vous êtes vraiment... il faut surtout appeler l'Esprit-Saint, c'est pas prier juste pour prier, l'invoquer l'Esprit-Saint, il vient et il me réveille. Et c'est drôle parce que j'arrive fatigué, j'ai envie de me coucher, je me mets à genoux, je me mets dans mon petit coin prière et je me mobilise pour être dans ce cœur à cœur avec Dieu et je sens qu'il est là, qu'il vient, qu'il me donne la force et qu'il me réveille. Et il me donne envie de rester un petit peu plus longtemps, même 5 minutes de plus, c'est très bon.
Vous teniez à insister aussi sur l'importance du combat spirituel. Je crois que ça sera le sujet d'une prochaine émission, ce combat spirituel, ou en tout cas, ça sera en toile de fond d'un certain nombre d'émissions. Okay. Ce combat spirituel, vous le dites, et c'est bon, il n'y a pas que vous, c'est la grande tradition de l'Église que dans ce travail de conversion, de transformation intérieure, de guérison, eh bien, il y a des obstacles. Les 3 lieux de combat sont le monde, le diable et moi-même. Alors, je sais pas forcément les 3 lieux, mais en tout cas les 3 obstacles majeurs. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots? Il ne s'agit pas de faire un enseignement sur le combat spirituel, mais pour nous aider à prendre conscience de ce qui se joue, dans cette guérison.
Bien, c'est trois pôles, 3 colonnes fondamentales, c'est sûr, que le combat, il va y avoir le monde. C'est sûr qu'on est dans une culture où le bon Dieu, il n'est pas très présent, on est assez déchristianisé, donc évidemment...
Vous dites le but du monde, c'est de nous inciter à réaliser nos passions.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est le malin qui va nous inciter justement à rentrer dans les passions pour nous éloigner de Dieu. Lui, il cherche qu'une seule chose, c'est nous couper de Dieu. Et c'est vrai que notre culture, elle a des idéologies multiples qui sont là pour nous mettre à distance du bon Dieu, que ce soit, j'en ai parlé un petit peu, à l'époque c'était le collectivisme, donc c'est la communauté qui prend sur l'individualité. Ensuite, c'est l'individualisme, on est très marqué par l'individualisme, c'est-à-dire qu'on s'occupe plus de l'autre, de la communauté, mais on s'occupe de soi. On est dans une culture où l'épicurisme est quand même fort. Le plaisir, le bonheur, la joie, c'est de se remplir. Ça veut dire quoi ? Je remplis le vide. Donc c'est une culture qui, ou des idéologies qui nous éloignent du bon Dieu. Bon, on est simplement, nous, on a à être vigilants en tant que chrétiens. On n'est pas piégés dans toutes ces... Il y a des tentations, mais... On fait ce qu'on peut, c'est évident qu'on fait ce qu'on peut, mais c'est là que je dis, la prière est là pour nous protéger de tous ces assauts là, parce que le but, en fin de compte, du monde, et puis même le but du malin, c'est de nous amener à perdre le sens du réel, et le sens du réel, c'est le sens de Dieu.
J'aimerais qu'on finisse cette première partie. Vous avez une citation qui est extraite des Écritures où il est dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous rappeler cette citation et puis nous dire aussi ce qu'elle signifie, ce qu'elle dit aussi de la détermination qui doit être la nôtre ?
Eh bien, justement, ça fait partie du combat spirituel. Il y a dans Jacques, il y a cette belle parole qui nous dit « Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable ». C'est-à-dire qu'il y a un combat. Moi, je suis là au milieu, Dieu veut m'accueillir et le diable veut me prendre. Il y en a un qui veut mettre la main sur moi et le Seigneur, lui, avec sa délicatesse, il me dit « Viens à moi ». Donc les deux veulent s'occuper de moi. Il y en a un pour l'amour, il y en a un pour la haine. Donc vous voyez, cette revendication, là, si je suis un mou, et c'est un petit peu notre tendance, mais moi aussi ça m'arrive hein, d'être mou, je dis, mais aujourd'hui, tu as été mou dans ta prière, eh bien résiste à cette tentation de te laisser aller. Je ne suis pas un soldat, hein, non, c'est simplement dire que ces petits temps de sincérité, de revendication, je veux revendiquer le ciel. Et là, il y a un combat qui est fort. Il y a vraiment une volonté, une persévérance et une détermination, persévérance et détermination pour s'emparer justement du cœur de Dieu. Il nous attend et c'est sa joie. Et je me dis dans ma prière, Seigneur, comme j'ai envie de te faire plaisir. Et je sais que ça fait du bien au bon Dieu, parce que ça me fait du bien à moi en même temps. On est dans ce cœur à cœur. Mais là, il faut le revendiquer. C'est le bon Dieu qui m'attire à lui. C'est pas moi qui vais... Je me mets en disposition. Mais je dis, Seigneur, viens. Il me dit, fais un pas. Monte une petite marche. Et le reste, c'est moi qui vais l'attirer. C'est l'ascenseur de la petite Thérèse.
On va faire une première pause et puis on va vous retrouver après pour reprendre des exemples comme on l'avait fait dans l'émission précédente et voir donc le travail de transformation qui peut se vivre pour aller au-delà de notre résistance au changement pour cette action de Dieu qui peut guérir.
Thank you.
Dieu peut-il guérir ? C'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, deuxième émission de cette série de carême. En ces lundis de ce carême 2019 avec comme invité Daniel Desbois, psychologue et cofondateur des Agapés Retraites de Guérison Intérieure du Puy-en-Velay. On aura l'occasion de reparler de ces Agapés, de ce qui se vit au Puy-en-Velay. Dans cette deuxième émission, donc sur le thème de la résistance au changement, après avoir reçu une grâce, des grâces, vous constatez lors de ces retraites et puis par tous les accompagnements que vous faites qu'il est difficile d'aller plus loin. Vous nous avez dit cette phrase dans la première partie de l'émission, il faut passer de la bénédiction à la transformation. Est-ce que vous pourriez commencer tout simplement, Daniel, par nous donner un exemple ? On n'a pas fait cela en première partie, vous l'avez beaucoup fait la semaine dernière. Donnez-nous un exemple d'une personne qui a reçu une bénédiction et qui a du mal à passer à la transformation.
Alors, je pense à cet homme qui a une très très riche vie de prière, très installé dans le bon Dieu, et qui vient et puis qui me dit « qu'est-ce que j'ai peur de la vie, comme je n'ai pas confiance en moi, je me sens tellement minable ». Donc ça, c'est vrai que ça interpelle quand même. Et puis il me raconte son histoire. Et il évoque le fait qu'il a une mère très possessive qui a amputé l'autonomie de ses enfants. Donc c'est un garçon qui doit avoir à peu près 35 ans par là. Et il m'explique que toute sa vie, il a été, pris. Elle a pris possession de son âme. Mais pas qu'à lui, hein. Mais moi j'avais que lui en face, bien sûr. Donc elle a pris possession de son âme parce qu'il avait une phrase, enfin, alors croyance limitante dont on parlait, cette phrase c'était simplement et terriblement « sans moi tu ne peux rien faire ». Pourtant je me dis, mais Jésus il dit pareil, « sans moi tu ne peux rien faire ». Donc voilà, cet enfant qui a été éduqué sur le fait que sans moi tu ne peux rien faire, c'est-à-dire tu peux dire tout ce que tu veux, c'est moi qui ai la bonne parole. La parole de sagesse, c'est moi qui l'ai en tant que mère. Et il s'est soumis, il a effacé toute sa personnalité, c'est pour ça qu'il n'a pas confiance. Même s'il est en Dieu, il a encore cette croyance limitante qui est complètement active. Et c'est là quand il a pris conscience, mais attends, c'est de l'idolâtrie. En fait, sans moi, tu ne peux rien faire. Mais c'est Jésus qui s'adresse à toi quand il te dit ça. Et je lui ai demandé, mais alors comment est-ce qu'il s'est adapté ? Comment est-ce que vous avez fait là pour lutter ? Est-ce que vous avez osé un jour dire non ? Il me dit, oui, ça m'arrive, ça m'est arrivé de dire non. Mais qu'est-ce qui se passe quand je dis non ? Parce qu'il me disait, mon père, lui, c'est un soumis, il est derrière, c'est une femme très autoritaire. Alors, et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe quand vous dites non à votre mère ? Il me dit, quand je dis non à ma mère... automatiquement elle rentre elle dans la souffrance avec mon père qui la suit et je me sens responsable de la souffrance que j'occasionne en disant non à ma mère, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, avec ce que tu me demandes de faire. Qu'est-ce qui se passe après ? Il me dit, à ce moment-là, je me sens coupable. Et dit, pour moi c'est insupportable d'abandonner mes parents à ce moment-là simplement parce que lui dit non. Et alors qu'est-ce que vous faites ? Eh ben, je me rétracte et je dis oui. Qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là ? Il a compris que pour éviter un conflit extérieur, puisque sa parole n'a pas de poids, pour éviter un conflit extérieur, il préfère non assumer un conflit intérieur. Parce que dès l'instant où il dit « le conflit extérieur, je vais être ratatiné, je vais lui dire oui, je la suis ». Et c'est ce qu'il a fait tout au long de sa vie, dire oui, dire oui, dire oui. Mais intérieurement, le conflit est terrible. Pourtant, c'est un garçon qui prie énormément. Il s'est marié, et on parlera tout à l'heure de quitter son père et sa mère, il s'est marié, mais la mère est toujours là, dans leur couple. Elle est toujours là, et automatiquement, il est complètement soumis à la présence de sa mère, même face à son épouse. Vous voyez, pour dire combien c'est difficile d'arriver à transformer la grâce qu'il a reçue X fois. Et là, s'il était en agapé, il était là pour dire « Seigneur, maintenant je veux passer de l'autre côté ». Et c'est le chemin, c'était de l'amener à se défaire de ce qui ne lui appartient pas. C'est pas son problème si sa mère est comme ça. Son problème, c'est de se soumettre à une idole à laquelle il n'a pas à se soumettre. Vous voyez, c'était tout le chemin de déculpabilisation et d'autorisation à vivre.
Vous dites aussi que souvent, la difficulté que l'on a comment dire, à franchir cette étape ou à rentrer dans cette étape de transformation après celle de la bénédiction, et le fait que l'on ressasse en fait son passé, qu'on soit prisonnier de son passé, peut tenir aussi au refus que l'on a de sa pauvreté. Est-ce que vous pouvez expliquer cela ?
Eh bien, c'est vrai qu'on entend souvent, on entend, mais oui, moi je suis un pauvre, etc. C'est déjà une belle chose de pouvoir reconnaître sa pauvreté. Mais le problème, c'est est-ce que tu l'acceptes, ta pauvreté ? Je vois moi-même, je suis parfois dans des situations prisonnier aussi de ce truc. Je ne reconnais pas ma pauvreté à ce moment-là. Parce que je le sens, je me sens à ce moment-là stressé ou j'ai envie de me battre. Je veux reprendre possession de ma vie à ce moment-là dans un petit temps d'épreuve ou un grand temps. Et je me dis, bon, la pauvreté, tu ne l'acceptes pas à ce moment-là. Et je crois que le critère le plus évident chez nous, parce qu'on est tous plus ou moins concernés par ça, c'est à un moment où je vais être plongé dans la susceptibilité. La susceptibilité, c'est vraiment un poteau indicateur de mon chemin spirituel. C'est vraiment important de savoir où j'en suis par rapport à moi, grâce à la susceptibilité que je peux avoir quand on me renvoie à mes torts, ou on me renvoie à la nécessité de changer. Vous voyez, c'est important de savoir que la susceptibilité est vraiment le signe que je ne reconnais pas ma pauvreté et je ne l'accepte pas. Parce que je vais dire, mais oui, mais je la reconnais. Mais est-ce que ça t'arrive d'être susceptible ? Ah ben c'est vrai, hein, quand on me remet en cause, je le vis mal, je réagis. Encore, si je le vis mal sans réagir, c'est déjà un pas. Mais dès l'instant où je réagis, je veux absolument affirmer ma bonne raison, ma bonne vérité. Là, je suis dans l'orgueil. C'est le propre même de la susceptibilité, c'est de nourrir l'orgueil. Et j'aime entendre dire et dire que justement les épreuves sont aussi les potes indicateurs de là où j'en suis spirituellement.
C'est-à-dire ?
Ben, c'est-à-dire que dès l'instant où je vais être dans l'épreuve, soit je traverse avec le Seigneur l'épreuve, soit je veux la traverser toute seule et là je suis dans la bourrasque. Quand je suis dans la bourrasque, je ne sais pas ce que je vais en tirer. Quand je suis dans la bourrasque, comme dans toute bourrasque, ça n'a pas de sens. Quand je suis en Christ, dans l'épreuve, le Seigneur va m'aider à donner sens pour me rapprocher de lui, pour me dire, ça n'est pas ton combat, c'est mon combat.
Vous dites aussi donc que cette difficulté peut tenir à la fausse image que l'on a de soi, qui est liée aux croyances et aux décisions prises enfant sur nos blessures vécues. Je vous cite, on peut reprendre l'exemple que vous citiez précédemment, hein, cet homme qui a quelque part idolâtré la parole de sa mère quand il fallait idolâtrer entendre celle de Jésus. Mais quand vous dites fausse image de soi liée aux croyances et aux décisions prises enfant, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'émission précédente, ce que vous nous avez expliqué la fois dernière, c'est que souvent on a comme des serments intérieurs dans des situations critiques que l'on a vécues. Je crois que vous aviez cité un enfant qui avait été confronté au divorce de ses parents, où les parents lui avaient demandé de choisir. Et cet homme, depuis, en fait, ça s'interdisait toute décision parce qu'il ne voulait pas, quelque part, inconsciemment choisir entre son père et sa mère. Oui. Est-ce qu'on est tous, en fait, quelque part, pris par ces serments intérieurs qu'il faut arriver à retrouver, à prendre le temps de décortiquer?
C'est le but de la connaissance de soi qu'on évoquait tout à l'heure. Le but, c'est pas seulement de se connaître pour se connaître, c'est de connaître qu'est-ce qui empêche la grâce de transformer mon âme et de marcher dans les pas de Jésus. Et c'est vrai que les croyances limitantes, on en a tous. Elles sont plus ou moins fortes, c'est évident. Hein. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Je suis en train de penser à cette femme qui a subi l'inceste jusqu'à l'âge de 20 ans. Elle s'est obligée de se marier pour pouvoir se défaire de cet agresseur qui était constamment avec lui. Dès l'instant où elle a pu s'en défaire, elle a dit « Je ne montrerai jamais ma peine ». Je ne montrerai jamais ma peine. Ça, c'est une décision qu'elle a pu prendre, mais une fausse vérité, en fait. C'est des décisions comme ça, ce sont des mensonges, parce qu'en fait, elle était d'une tristesse. Quand je l'ai vue, cette personne, elle était en détresse, elle était à la limite de se suicider, dans un désespoir qui se comprend, parce qu'elle se vit comme une ordure. Et pourtant, c'était la femme que l'on invitait, parce qu'on savait qu'elle allait nous mettre dans la joie. C'était dans les réunions de famille, les réunions amicales, c'est la personne qu'il fallait inviter. parce qu'on allait passer une bonne soirée. Donc vous voyez ce mensonge qui l'a taraudée et qui la mettait en conflit interne, parce qu'elle savait, elle me disait, je sais quand je sors les blagues, je sais que je triche, je sais que je ne suis pas en vérité, je sais que je ne suis pas moi-même. Alors vous vous rendez compte comment, et c'est un petit peu le problème que nous avons, c'est d'arriver à être soi-même parce que on a du mal, parce qu'on est encombré de quelque chose qui ne nous appartient pas, comme l'exemple de ce garçon-là que je viens d'évoquer. Je dis, mais comment est-ce que je peux me donner aux autres? Comment est-ce que je peux me donner à Dieu si je ne suis pas moi-même? Qu'est-ce que je donne, en fait? Qu'est-ce que je donne de moi? Eh bien, c'est vrai qu'on donne peu de soi, selon l'histoire et les passés et les passifs que nous avons, qui fait que l'enfant, il fait comme il peut pour pouvoir s'adapter à la situation originelle dans laquelle il est, et qui peut être des fois difficile et douloureuse. Mais dès l'instant où il va s'adapter, il ne va pas être lui-même. Quand on a un papa et une maman qui permet à l'enfant de chanter, de jouer, voilà, et puis d'être corrigé aussi, d'être repris quand il faut le remettre dans la loi, mais c'est merveilleux. Mais quand ça n'est pas possible, l'enfant, il fait, dans la mesure où il fait comme il peut, ça y est, il n'est plus lui-même. Il n'est plus lui-même. Il va devoir faire avec.
Vous dites aussi qu'il faut découvrir, en fait, au cœur de ce travail de relecture, il faut trouver ce qu'on ne souhaite pas lâcher, et que souvent, ce qu'on ne veut pas lâcher, c'est ce à quoi l'on tient le plus. Alors, expliquez-nous ça.
Eh bien, étant donné que l'homme se fait, pour la plupart d'entre nous, il se fait tout seul. On voit déjà en tant que chrétien. Je vois les combats, moi, que j'ai pu avoir pour essayer d'être au plus collé à la parole, collé à la présence de Dieu. Mais je me rends compte que je passe un temps dans la journée important où je suis dans mon autonomie, je ne pense pas toujours au bon Dieu. Et je me dis, ben, tu es encore à travailler pour le porter encore en toi avec un petit peu plus de conscience, de présence. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est, en fin de compte, on est loin de Dieu? C'est qu'on a l'habitude, et c'est ce à quoi on tient, on a l'habitude de prendre possession de notre vie. Je vois...
Mais lâcher ce à quoi on tient le plus, ça veut dire quoi, en fait?
Ben, par exemple, quand j'ai une difficulté avec papa ou avec maman. Je vais avoir une difficulté, j'ai vécu difficilement. Je peux leur en vouloir, ce qui paraît tout à fait normal. Quand on a un père qui n'est pas crédible, qui n'est pas exemplaire, ou une mère qui n'est pas exemplaire, je vais garder quelque chose en moi, de l'ordre de la rancune. Mais je peux ne pas m'en rendre compte. Et puis je peux dire, combien de fois j'ai entendu des personnes qui me disent « Mais moi, ça y est, j'ai pardonné à mon père, ou j'ai pardonné à ma mère. » Et pourtant, la personne, elle n'est pas bien. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que la personne me dit « j'ai pardonné à mon père ou à ma mère », et puis quand elle vient, elle me raconte les difficultés qu'elle peut avoir avec une autorité, qui est un substitut, ou paternel, ou maternel. Mais il faut bien se dire qu'un pardon est effectif, non pas seulement quand j'ai pardonné à papa et à maman, mais quand j'arrive à pardonner aux substituts aujourd'hui. Mes parents, ils sont peut-être loin. Mais les substituts, ils sont prêts, vous voyez. Et c'est là que je vois les rancunes que nous pouvons avoir, ne serait-ce que quand on va faire le Notre Père, quoi. Et que je sais que j'ai des pardons que je n'arrive pas à poser, et qui engluent mon âme. Et pourtant, j'y tiens. Je vois combien de fois les personnes...
J'y tiens parce que
j'ai l'habitude...
Ça me fait trop peur de vivre sans, ou que je me suis construit autour de
je
ça.
Je me suis construit autour de ça. Vous voyez, quand une personne... Je vois par exemple, moi j'ai posé une croyance, je vais parler d'une croyance que j'ai posée quand j'étais jeune. J'avais un père qui était très... C'était un boxeur, hein, donc un homme très fort, vraiment. Et puis quand il claquait, ça faisait mal, ça faisait bouger le corps, hein, je peux vous dire. Eh bien, cet homme, il m'a toujours fait peur, ce père, que j'adore aujourd'hui parce que je sais qu'il est en paix et que moi je suis complètement en paix avec lui. Ben, cet homme qui était vraiment... Il a toujours fait peur à ma sœur, à ma mère... Voilà, il était comme ça. Eh bien, c'est évident que il y avait une colère en moi. Et très tôt, je sais que j'ai posé une croyance forte, pour moi qui était forte, c'était « un jour, je serai plus fort que toi ». Vous voyez, cette décision qui est terrible.
Et un jour, c'est moi qui t'en collerai une, c'est ça, c'est...
Ça veut dire, plus fort, c'est pas lui en coller, mais lui dire « je serai au-dessus de toi, ouais. Je serai au-dessus de toi ». Et je vois, j'ai grandi beaucoup là-dessus. Il fallait que je sois confronté, justement, à une autorité, toujours. j'étais confronté pour pouvoir la dépasser. Quand j'étais toujours, souvent on faisait appel à moi ou quoi pour être en tandem avec celui qui est le responsable. Et derrière, il y avait toujours cette, mais malgré moi, un jour je serai devant toi. Un jour, je serai devant toi. Et je disais à mon épouse, ça m'a toujours, au début, je ne comprenais pas, parce que on a été chrétien que très tard, à 47 ans, on a été converti. Et je disais toujours à mon épouse, c'est drôle, mais ma vie, j'ai l'impression d'avoir toujours un métro de retard. Ça, je sais pas pourquoi j'avais cette phrase, mais j'ai compris plus tard. J'ai dit le métro de retard, le métro qu'il y a devant, c'est mon père. Quand on est un métro derrière, on peut jamais rattraper le métro qu'il y a devant. Et j'ai compris avec le temps, bien sûr, que mon père, au fond, s'il était si exigeant avec moi, c'est qu'il voulait faire de moi un homme. Et que c'était derrière, c'était un homme bon, à sa manière, certes. Mais je vois combien ça a été difficile pour moi de me défaire de cette décision de me battre, parce que papa, je m'étais réconcilié avec lui. Et pourtant, j'avais encore cette croyance limitante, hein, cette décision terrible de dire je serai devant l'autre, plus fort que l'autre. Vous voyez, pour dire que je n'arrivais pas à m'en défaire. Il a fallu vraiment que, et là il y a une prière d'église, une prière de délivrance qui m'amène à prendre conscience que Seigneur, je te demande pardon. C'est quand j'ai pris conscience que non seulement je me faisais souffrir, mais que je faisais souffrir l'autre. Quand je souffre de faire souffrir, à ce moment-là, je suis prêt à lâcher. Vous voyez, c'est au moment où je suis prêt, que j'ai conscience de cette souffrance occasionnée dans le cœur de Dieu, que là je suis prêt à quitter.
J'avais une dernière question avant qu'on fasse une deuxième pause. Vous avez un mot qui est pas facile à entendre, hein, j'imagine pour un certain nombre d'entre nous, c'est que vous dites en fait le grand critère c'est la paix. Ça peut être assez ambigu parce que on peut avoir l'impression de vivre en paix et puis en fait découvrir qu'on vit avec ses serments. On peut au contraire parfois avoir une paix des profondeurs, mais les événements de la vie font qu'on est assez secoué. Qu'est-ce que vous entendez par cette paix? Le critère, c'est la paix. Ça veut dire quoi?
Alors, la paix est passagère, en fait. Moi, je vois que les moments où je suis en paix véritablement, c'est quand je suis dans un cœur à cœur avec Dieu. Et pour moi, c'est le critère, quand je sens cette paix profonde qui ne m'appartient pas, mais qui est un cadeau qui m'est offert par l'Esprit-Saint, je sais que je suis à la bonne place à ce moment-là. Mais évidemment, comme Pierre, hein, quand il va marcher sur les eaux, il y croit, hein, et puis après il enfonce. Et Seigneur, il crie vers Dieu, et là le Seigneur le reprend. Ben nous, c'est pareil, hein. La paix, c'est une expérience qui est passagère, à moins d'être un saint, tout donné à l'autre. C'est là où on mesure, enfin moi, c'est directement proportionnel, je dis, en fin de compte, mon aptitude à m'abandonner est directement proportionnelle à la paix que je peux vivre.
On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour toujours cette émission, donc la résistance au changement dans cette grande série sur le thème « Dieu peut-il guérir ?»
présence à Tarbes et Lourdes, 96.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Dieu peut-il guérir ? C'est pour rappel donc le thème de l'émission de ce matin avec Daniel Desbois, psychologue, cofondateur des Agapé Retraites de Guérison Intérieure du Puy-en-Velay. Dans cette dernière partie d'émission, Daniel, vous vouliez insister sur l'importance de la place du corps. Pour vous, vous me disiez ça en préparant l'émission, vous avez mis du temps à comprendre que le corps en fait avait aussi toute sa place dans ce travail de transformation. Alors j'imagine qu'un certain nombre de nos contemporains ne seront pas gênés par cette remarque, peut-être que c'est plus chez un certain nombre de chrétiens que ça tiquera, tant les nouvelles spiritualités sont des spiritualités qui souvent passent par le biais d'activités artistiques ou physiques. On pense entre autres évidemment au succès que rencontre le yoga et l'importance du corps dans les méditations contemporaines. Vous-même, vous avez mis du temps à lui faire sa place. Racontez-nous un peu comment vous avez eu le déclic.
Alors j'ai eu le déclic, comme je l'évoquais en début d'heure là tout à l'heure, j'ai pris conscience que je me posais la question, mais comment ça se fait que cette bénédiction reçue ne peut pas être transformée, alors que j'avais en face de moi, j'avais des personnes, et puis moi-même, des personnes qui étaient spirituellement très engagées, psychologiquement aussi très engagées, et je me rendais compte que pourtant ça tenait pas. Je dis, mais c'est pas possible, il y a une incohérence là il y a une incohérence qui m'échappe. Et un jour, j'ai compris, en écoutant une émission sur scientifique, j'ai compris que, mais attends, mais le corps, c'est le temple. C'est-à-dire, le Seigneur nous demande de dégager les marchands qui s'y trouvent. Et je me dis, mais les marchands, c'est quoi ? On peut dire, moi, les marchands, c'est soit intérieur, soit extérieur. Je me dis, mais si c'est les marchands à l'intérieur, c'est quoi ? Et du fait que j'ai été très intéressé, passionné justement par ces croyances limitantes, puisque je me dis si la pensée, nos croyances et pensées sont liées, notre manière de penser va me déterminer si je suis apte et capable d'être heureux ou malheureux. Ma manière de penser va créer ma réalité.
Attendez, je comprends pas là. On était en train de parler du corps et vous êtes dire que la pensée détermine la réalité.
Oui, voilà, mais c'est pour arriver au corps pour dire. Et je me suis rendu compte que le temple, qu'est-ce qui va me faire mobiliser mon corps ? Ce qui va me faire mobiliser mon corps, c'est mon mode de pensée. Parce que selon, quand on parlait tout à l'heure donc de croyances limitantes, les croyances limitantes, c'est quoi ? Ce sont des pensées. On dit que la parole de Dieu est vivante. Mais une parole de malédiction est vivante aussi. Et elle est vivante comment ? Dans la mesure où je pose une décision, tu n'as pas le droit au bonheur. Une personne qui me dit ça, j'ai vécu ça, je n'ai pas le droit au bonheur. Elle pense cela, c'est une pensée. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Dans la mesure où le cerveau, lui, récupère une pensée comme ça, tu n'as pas le droit au bonheur. Ça veut dire, tu as droit au malheur. Qu'est-ce qui va se passer ? Lui, le corps, le cerveau, il va transformer neurochimiquement, même au niveau génétique. Il va faire une transformation qui va faire que la personne, si elle a un mode de pensée comme ça, elle va avoir un ressenti comme cela. Tu n'as pas le droit au bonheur. Elle va le ressentir et elle va agir, donc pensée, sentiment, action. Et elle va agir justement comme quelqu'un qui n'a pas le droit au bonheur. Je suis en train de penser, je fais juste une parenthèse, hein. Je suis en train de penser à cette personne qui a... avait un père pervers, donc diagnostiqué, hein, qui vivait la perversion, et la maman, donc son épouse de cet homme-là, qui était dépressive, elle faisait avec, et cette fille qui dit mais je vais aider maman à sortir de la dépression, à lui donner un petit peu de joie, et évidemment ça a été l'échec parce que la perversion a pris le pas sur la dépression et c'était un peu tard. Et le fait de vivre cet échec a mis dans la tête de cette jeune femme, a mis dans la tête, tu n'as pas le droit au bonheur parce que tu n'as pas réussi à rendre heureuse maman. Et heureusement, elle s'est mariée et puis elle a senti qu'elle avait une certaine joie à être avec cet époux, à avoir des premiers enfants, Et puis tout d'un coup, il y a à nouveau les pensées qui lui revenaient, tu n'as pas le droit au bonheur.
Et ça avait une traduction sur son corps, en l'occurrence.
Sur son corps, voilà. Et le bonheur de la lancée de ce mariage, cette première année, ce premier enfant à naître qui est là. Donc le bonheur est là, et puis tout d'un coup, il y a à nouveau la tristesse qui arrive et qui s'est posé la question, et c'était pour ça qu'elle venait, mais c'est quoi cette tristesse? Quand on a délogé cette croyance limitante, tu n'as pas le droit au bonheur, elle a compris qu'effectivement, son mode de pensée l'a ramené toujours à il faut tuer la joie. Donc tu tues la joie de ton mari, tu tues la joie de ton enfant, qui est encore tout petit, et elle s'est rendue compte qu'elle devenait responsable, justement, mais pas de sa faute, parce qu'elle était prise ou prisonnière par cette croyance limitante. Et c'est...
Mais donc là, le corps, quelle est la place du
corps?
Alors,
c'est ce qu'elle a compris. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe quand vous êtes là-dedans, que tout d'un coup, vous prenez conscience que vous n'avez pas le droit au bonheur? Elle me dit, je suis mal, je suis d'une tristesse profonde. Et c'est ça qui est le plus fort. Et elle me dit, je sens que je sombre en dépression, comme ma mère. Donc, c'est-à-dire que le message a été imprimé jusque dans le corps, jusqu'à ressentir la dépression, ce changement profond négatif, en fait, qui l'amène ensuite dans l'action, à être avec un mari qu'il adore, qu'il aime son épouse, mais elle n'arrivait pas. Donc il a fallu faire cette bascule et dire, mais c'est qui a cette croyance, elle est liée à ta mère, la dépression de ta mère appartient à ta mère. Toi, tu n'as pas le droit d'être dépressif, toi tu as le droit d'être heureuse, tu as le droit. Est-ce que tu veux bien te l'autoriser? Et elle a dit, ok, je veux m'autoriser cette chance que j'ai d'avoir un époux et d'avoir un premier enfant comme ça à naître, vous voyez cette bascule au niveau de la pensée qui, après, tout doucement avec le temps, lui a permis, cette autorisation qu'elle s'est accordée, cette autorisation lui a permis de comprendre que, de ressentir qu'il y avait quelque chose en elle qui se transformait. Mais qu'est-ce qui se transformait?
Même physiquement, donc.
Physiquement. Il y avait quelque chose en elle qui se transformait dans son corps, mais qu'est-ce qui transformait son corps? C'est son mode de pensée. Elle a mis en place des croyances. Et là, je peux vous dire qu'elle a fait un progrès spirituel parce qu'elle a dit, ok, là maintenant, je comprends la parole de Dieu quand je lis les psaumes et que je suis vraiment une merveille pour le Seigneur. Là, elle y croyait.
Alors vous parlez carrément de pensée créatrice. Est-ce que vous pouvez expliquer ça et puis peut-être étayer votre propos? Ça veut dire quoi?
La pensée est créatrice, tout à l'heure je disais, puisque la parole de Dieu est vivante. Puisque quand je lis les psaumes, que je m'en imprègne, que je m'imprègne de tout ce que les saints disent, et que je l'ai fait pour moi, je les vis. À ce moment-là, le corps, lui, il est rempli de Dieu, il est rempli de l'Esprit-Saint. C'est-à-dire qu'il me recrée. C'est une recréation quand l'Esprit il agit. Si Jean-Baptiste a dit « il faut que je diminue » pour que lui augmente, c'est-à-dire qu'il m'invite, à ce que le vieil homme diminue petit à petit pour qu'il y ait une recréation. Mais la recréation, elle va se faire par la grâce, c'est la grâce qui va me recréer, mais ça va dépendre aussi de mon mode de pensée. C'est-à-dire que si je suis encombré par mon histoire, que je n'ai pas quitté, si je suis encombré par mon histoire, c'est évident que je vais avoir du mal à diminuer. Je vais avoir du mal à laisser la place, que le Christ vive en moi, croisse en moi. Vous voyez, c'est vraiment ce passage d'une pensée limitante à une pensée créatrice en Christ par l'Esprit-Saint. Ce passage, il n'est pas toujours simple. Et c'est là que le corps, c'est le réceptacle de mon âme et c'est le réceptacle de Christ en moi.
Enfin, vous souhaitez insister sur cette parole que le Christ donc a prononcée en croix. Tout est accompli. Pour vous, il y a là matière à prendre appui de manière définitive pour vivre cette transformation intérieure. Expliquez-nous ça.
Ah oui, mais là aussi, ça a été pour moi une étape fondamentale quand j'ai compris à mon niveau à moi, là où j'en suis, quand j'ai compris qu'au moment où Jésus, avant de libérer son dernier souffle, dit à son père, il lui dit « tout est accompli ». Mais je lui dis « mais Daniel, il te dit à toi, tout est accompli ». Il dit à mon épouse, à Claude, il vous dit « Emmanuel, tout est accompli ». Ce qui veut dire que quelle que soit l'épreuve dans laquelle on est, même si c'est difficile, le Seigneur est déjà passé par là. C'est-à-dire que la résurrection est déjà là. Mais je dis, mais moi, je suis dans la mort, là, en ce moment. Je suis pris par la tristesse, j'ai envie de vomir de ce que je suis. Tout est accompli. La résurrection, tu l'apportes. Maintenant, le Seigneur, il me demande de faire le chemin avec lui. Il est le chemin, il va m'indiquer.
Tu risques pas d'être un peu volontariste quand même, ce
pas
que vous décrivez ?
Pas du tout. C'est un acte de foi. C'est parce que si je dis tout est accompli en moi, je sais pas, on n'est pas dans la méthode Coué, là, hein, on est dans la foi. C'est-à-dire que si je suis dans la foi c'est vraiment la
preuve d'une réalité qu'on ne voit pas.
La preuve d'une réalité qu'on ne voit pas. Donc quand je dis ça, la foi, c'est la preuve d'une réalité qu'on ne voit pas. Et en même temps, je vais reprendre ce qui est dit dans Marc 11, 24. Ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc ça veut dire que le fait de prier, le fait de croire que tout est accompli, en priant donc avec la foi, avec une forte ferveur, ben, la création est déjà faite. La transformation est déjà faite en Christ. C'est-à-dire la résurrection est déjà là. Sinon, je vais rester plus longtemps, vous voyez, sur la croix en fait. Le Seigneur veut me sortir de là. Il a déjà fait ce parcours. Vous voyez, pour moi c'est absolument fondamental de savoir, et c'est ce qui m'encourage. Des fois je me dis, quand je suis en difficulté, que je souffre, je me mets, Seigneur, je veux croire, je crois, je suis sûr que tout est accompli. Dans ce moment que je suis en train de vivre, là j'ai, avec ma petite femme qui est en difficulté, je suis en difficulté, moi aussi, mais je dis, Seigneur, je sais que tout est accompli, autant pour elle que pour moi. Et ça, c'est mon bonheur de le savoir.
Eh ben, merci beaucoup, Daniel Desbois. Rendez-vous est pris donc la semaine prochaine avec vous pour une troisième émission sur le thème « Dieu peut-il guérir ?», cette grande série de carême. Et le thème sera « Le chemin de la conversion, la marche dans son désert intérieur ». J'imagine qu'on ira encore plus profond peut-être dans ce qu'on a vu aujourd'hui. Voilà, un grand merci à vous. Et puis, je le dis, peut-être qu'à la fin de cette série, on fera un coffret, comme ça chacun pourra avoir ses CD chez soi. On donnera aussi des pistes de lecture pour prendre le temps d'être accompagné par Daniel Desbois et contribuer chacun à faire une partie de ce chemin. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.